Do you think the number of fatalities in this country will be significantly lower than the 100,000 to 240,000 first projected?
I do.
Bon, on a demandé, c'est Dr. Fauci, ça?
C'est ça.
Dr. Fauci s'est fait demander, pensez-vous que les prévisions de décès vont être plus basses que prévues?
Oui, il a répondu assez simplement « I do », donc oui. Et il faut expliquer à quel point ça a changé en peu de temps aux États-Unis. On se rappellera, ça fait pas si longtemps, là, c'était à la fin du mois de mars, il y a quelques jours à peine, le fameux modèle qui avait été publié par la Maison-Blanche, qui avait tant fait réagir, qui projetait à quelque part entre 100 000 et 200 000 morts aux États-Unis à la fin de la crise, et ça, c'était « si ça allait bien ». Alors, ce que le Dr Fauci est allé dire aujourd'hui à l'émission Today du réseau NBC, c'est qu'on s'attendait maintenant, dorénavant, à quelque chose qui serait autour des 60 000. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'imprécisions. Il ne faut pas traiter ça comme du gospel, mais force est de constater qu'à la fois au niveau du modèle de la Maison-Blanche et du modèle qui est aussi beaucoup, beaucoup cité dans les médias de l'Université de Washington, on a eu des révisions très importantes à la baisse, à la fois au niveau du nombre d'hospitalisations et de décès. Donc, on n'est pas sorti du bois, loin de là aux États-Unis, mais on est dans une tout au moins là, moins pire position à l'échelle nationale qu'on anticipait il n'y a pas si longtemps. Je dis à l'échelle nationale.
Raphaël, je veux juste. Vas-y. Tu regardes ça, ces chiffres-là, puis bon, tant mieux là, si c'est le cas, si le bilan est moins tragique, mais je regarde aujourd'hui. Là, on commence à dire que Baltimore, ça s'en vient pas mal chaud, que Philadelphie, ouais, ça s'en vient pas mal chaud, que Washington, c'est de plus en plus dangereux. Puis on apprend que même aujourd'hui, à Détroit, il y a des gens qui sont morts dans un corridor des urgences parce qu'ils n'ont pas été traités en temps. Ils étaient dans un corridor, puis quand le pouls a finalement cédé, puis il n'y en avait plus, ben, l'infirmière est arrivée trop tard, tellement la situation, et ça, c'est dans un hôpital, là, c'est un événement. Mais il me semble que la situation est encore tellement difficile que pour faire des prédictions à la baisse comme ça, c'est pas un peu prématuré, à ton avis?
C'est que les prédictions étaient tellement négatives que, écoute, quand on parle de 60 000 morts, c'est quand même pas rien, là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu mentionnes Détroit. Détroit, ça fait partie des points chauds depuis des semaines. C'est pas nouveau. Et il faut aussi mentionner que c'est peut-être très surprenant ce que je dis pour les gens, tous les gens qui voient les images et les statistiques de New York. Jérémy Fleuzon en parlait encore au début de l'heure. Il faut réaliser à quel point New York, c'est un cas présentement qui est complètement à part. Donc oui, tu dis Baltimore, Washington, on pourrait mentionner Chicago aussi, la Nouvelle-Orléans, on en parle peut-être moins de ce côté-ci de la frontière, mais je dirais qu'après l'agglomération New York, c'est probablement la grande région la plus touchée aux États-Unis. Mais New York, malgré ça, est vraiment, vraiment à part. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais il y a quelque temps que les États-Unis, en fait, on ne devrait pas voir ça comme une courbe, mais comme plusieurs. Mais en fait, à plusieurs égards, on devrait peut-être maintenant voir ça comme deux courbes. Celle de New York, puis tout le reste, tu sais. Et pour l'ensemble du reste, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est moins pire que ce que bien des gens peut-être anticipaient. Et ça, c'est une implication, en fait, qui est négative. Et voici pour qui. Pour beaucoup d'hôpitaux aux États-Unis. Parce que oui, il y a peut-être des débordements à droite puis à gauche, mais c'est très, très loin de ce qu'on anticipait. Encore une fois, pour l'instant, ça va peut-être changer, on ne le souhaite pas, ça va peut-être empirer, on ne le souhaite pas, mais pour l'instant, depuis les dernières semaines, c'est moins pire que ce qu'on pensait. Et pourquoi est-ce que ça, c'est négatif pour les hôpitaux? Parce qu'aux États-Unis, on s'en parle souvent comment leur système est différent. On a un système qui est, pas entièrement, mais largement privé. On a des hôpitaux qui sont souvent là pour faire quoi? Du profit. Et ce qu'ils ont fait, d'un océan à l'autre, c'est de vider, de faire de la place et d'acheter énormément, évidemment, à la fois d'équipement, mais payer beaucoup plus en termes de personnel aussi, et annuler ou reporter des opérations, des traitements, des rendez-vous. Et ça fait donc que simultanément, il y a d'énormes sorties d'argent et un énorme manque de rentrée d'argent, et ce, de façon qui était et qui est très inattendue. Donc, ça a l'air très contre-intuitif, mais sans dire nécessairement les succès, là, disons les moins pires performances que ce qu'on attendait, ont étrangement des répercussions qui font en sorte qu'il y a des tensions présentement au sein des hôpitaux.
Les dizaines de millions d'Américains qui font faillite chaque année parce qu'ils ne peuvent pas payer les bills,
c'est ça?
De chirurgie puis de traitement à l'urgence sont très certainement très émus par ce que tu viens de dire.
Ben, exactement. Mais ça te montre comment le système américain fonctionne à l'argent, et que souvent, les hôpitaux sont payés au nombre d'opérations. Et là, il y en a moins.
Merci, Raph. On se reparle demain.
À demain.
Merci, Philippe Quentin.
Salut, Patrick.
Merci d'avoir été là. On se retrouve demain.
Tout à fait.
Après la pause, on va parler d'éthique en matière de triage de patients de COVID.